Alexandre Moranville-Ouellet.
Cube Radio.
Incorruptible défenseur de la vérité. Il combat la désinformation, un argument à la fois. Journaliste dévoué, il n'est jamais à court d'arguments. Son pouvoir de persuasion brave tous les sujets de l'actualité. Alexandre Moranville-Ouellet.
Jeudi 30 juin, bienvenue à Cube Radio. Alexandre Moranville-Ouellet avec vous pour la prochaine heure. Dernière journée du mois aujourd'hui. Demain, c'est donc le 1er juillet, la fête du déménagement ou de la reine, hein, peu importe, dépendamment de votre allégeance là-dessus. C'est la première fois, moi, en 4 ans à Montréal, que je n'ai pas à déménager en pleine crise du logement ici à Montréal. Avant, chaque année, j'avais à me promener, changer de logement. Figurez-vous donc qu'il y en a un de ces logements-là dans lequel j'habite, qui a passé au feu il y a 2 ans maintenant. Et là, enfin, je suis bien installé, tout va bien. Et je plains quand même, malheureusement, là, je suis de tout cœur avec vous, toutes les personnes qui ont besoin de déménager en pleine crise comme ça du logement, qui ont besoin de se trouver un logement trop cher, trop petit, trop grand. Il y a toutes sortes de problèmes qui viennent avec ça. Et je vous lève mon chapeau. Demain, ça va être le jour de déménagement. Et d'ailleurs, demain, on fera également relâche ici à Cube Radio, justement, pour permettre aux gens ici de bouger, ceux qui ont besoin de le faire. Programmation spéciale de balado en rafale demain, donc, qui vous sera présentée. On a, en ce moment, évidemment, avec l'approche des vacances, donc, demain, qui est un beau jour de congé, eh bien, ça fait également 6 mois. Cette semaine, aujourd'hui, que Bruno Marchand est maire de Québec. Hein, il est allé, disons là, remplir d'énormes souliers qu'on lui donnait à remplir, ceux du maire Régis Labeaume qui était là avant lui. On a M. Marchand avec nous, le maire de Québec, en ligne. Bonjour M. Marchand.
Bonjour M. Raville.
Alors là, est au bilan. Tout d'abord, là, on va commencer rapidement. C'est quoi la chose dont vous êtes le plus fier jusqu'ici, là, 6 mois plus tard?
Ben, je pense que c'est la capacité d'inclure les citoyens en politique, dans les décisions, dans les questions, dans les débats. Au-delà d'éléments particuliers là, qu'on a mis en place sur le développement durable, sur la mobilité, sur des enjeux sociaux, sur les inégalités sociales ou autres, sur l'économie, c'est avec nos entrepreneurs, ce qui, je pense, transcende tout ça, c'est le ton, la posture de dire... Les gens ont le droit de pas être d'accord, les gens ont le droit d'être en opposition, les gens ont le droit d'avoir d'autres idées, ils ont le droit de le dire, puis c'est pas parce qu'ils sont pas d'accord qu'ils sont pas entendus, écoutés et que le débat se fait pas.
Ouais.
Ça, pour moi, il y a quelque chose là qui est un peu contre-tendance là, de ce qu'on voit entre autres dans les médias sociaux, de permettre le débat, puis aussi de se le permettre comme communauté, mais de se le permettre dans la nuance.
Ouais.
Donc pas juste de ben si t'es pas d'accord avec moi, t'es un con, puis je vais taper sur toi jusqu'à temps que je sois plus fort que toi, mais plutôt parle-moi donc de tes idées, j'aimerais ça les entendre, puis comment on peut faire pour construire quelque chose qui est plus solide par ton génie, mon génie, puis le génie des autres.
Vous êtes capable de faire ça même si le milieu des réseaux sociaux, là, vous m'ouvrez une porte, est hostile, même voire menaçant des fois?
Oui, vous avez raison de dire ça. Ça se fait moins bien dans les médias sociaux que ça peut se faire sur une vraie tribune. On a fait des activités pour le tramway en salle, en présentiel ou en virtuel. Les choses se passent en général très bien. Il n'y en a pas tout le temps, mais en général très bien. Les gens viennent dire pourquoi ils sont pour, d'accord, leurs inquiétudes, leurs préoccupations, entendre d'autres nommer pourquoi ils sont favorables, discutent, amènent des éléments qui les questionnent. C'est ça pour moi une démocratie. Là. C'est un endroit où les gens ont la chance de participer, de contribuer, d'amener des idées. Et vous nommez les médias sociaux, à la suite de ce que je disais, c'est rendu un peu, je pense, ça fait des débats qui sont caduques et il y a beaucoup de gens qui désertent ce débat-là parce qu'on peut pas avoir un débat sans se planter, sans se traiter de con, sans se traiter de corrompu, sans se traiter d'assassin, de ci, de ça. Ça n'a pas d'allure, là. On n'arrive pas à faire un débat intéressant et se priver du débat, selon moi, là, se priver des enjeux, des échanges, mais c'est se priver d'une partie de ce qu'on pourrait améliorer comme projet, parce que c'est pas vrai que mes idées sont les meilleures, c'est pas vrai que vos idées sont les meilleures, peu importe le rôle qu'on occupe, mais une fois qu'on les combine, une fois que quelqu'un les questionne, une fois qu'on accepte de les remettre en question, c'est fou comme communauté ce qu'on peut faire. Mais ça suppose d'avoir d'abord l'idée de se dire, ben dans l'autre, là, chez l'autre, il y a quelque chose d'intéressant qui mérite d'être écouté.
Oui, parce qu'il y en a des divergences d'opinion, puis il mérite là,
puis
de
en
tout.
Faut.
Ben oui, il en faut, puis vous m'amenez, M. Marchand, là, il y en a des divergences d'opinion, entre autres, entre vous et, à certains égards, le gouvernement provincial. Vous n'avez pas caché votre impatience là, face aux interventions, entre autres là, du gouvernement Legault sur plusieurs dossiers de la ville de Québec, tramway et autres. Vous avez même parlé, entre autres, là, de votre collaboration avec la ministre responsable de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbeault, en disant que ça pourrait être remanié peut-être avec les élections qui s'en viennent. Qui vous aimeriez voir à la place de Mme Guilbeault à la CAQ?
Bien, la une du Journal de Québec aujourd'hui va dans le sens de ce que vous disiez. Moi, mon intention, c'est pas de dire je veux pas Mme Guilbeault, je veux Mme Guilbeault. Là. Moi, je vais travailler avec c'est le choix du premier ministre et je vais travailler avec la personne que le premier ministre va nommer, que ce soit Mme Guilbeault, machin chouette, peu importe.
Vous devez avoir une préférence, non?
Non, puis je veux pas en avoir, puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est que c'est pas ma prérogative, puis c'est pas au maire de Québec de choisir ça. Le maire de Québec, ce qu'il doit faire, c'est de dire, je veux qu'on ait quelqu'un, puis c'est ce que je disais dans le journal, je veux qu'on ait quelqu'un qui fasse rayonner la ville, qui ait de l'ambition, qui ait des idées. Puis c'est pas en opposition avec Mme Guilbeault, là. C'est pas ça que je dis. Et ça suppose d'un ministre régional qui ait les coups des franges de la part de son gouvernement. Et je pense que si c'est la CAQ qui est élue, et dépendamment des élections, ça peut être d'autres gouvernements, mais j'ai entendu à la fois du premier ministre, mais aussi de Dominique Andelade, de Paul-Saint-Pierre Plamondon, de Gabriel Nadeau-Dubois, cette volonté de faire de Québec un pôle encore plus fort. Je l'ai entendu du premier ministre. Alors, si c'est lui qui est élu, il choisira qui il veut pour travailler à la Capitale-Nationale. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un de collaboratif, quelqu'un qui a de la vision, puis on va bien s'entendre, peu importe c'est qui. Parce que, tu sais, au final, là, il y a trop d'enjeux personnalisés en politique. C'est pas important que ce soit quelqu'un que moi je choisis. Ce qui est important, c'est qu'on partage une même vision pour Québec, puis après ça, à travers nos rôles, on bâtit cette ville-là.
Vous le dites, il y a une volonté là, de beaucoup de partis politiques, autant au provincial, même au fédéral, là, de faire de Québec un pôle important. Avez-vous l'impression, justement, que votre ville est au centre en ce moment de l'échiquier des batailles politiques en ce moment? Il y a le tramway, le troisième lien, il y a même aux élections là, provinciales, bien, la montée du Parti conservateur dans votre région.
Je pense qu'on peut dire ça. Il se passe des choses ailleurs dans d'autres régions comme celle de Québec. Mais oui, pour des raisons, une conjoncture à la fois économique, ça va bien économiquement. On a le vent dans les voiles. En même temps, on a des défis, on a des grands projets qui s'en viennent.
Mais est-ce que ça vous donne un levier, vous trouvez? Est-ce que vous trouvez que ça vous donne un levier, justement, pour demander certaines choses, d'être capable de négocier de manière plus forte avec, justement, là, les partis provinciaux?
Oui, mais j'oserais dire que oui, je pense que oui, mais j'oserais dire que la capitale a toujours eu, de la part des élus locaux, là, notamment les maires de Québec précédents, cette grande volonté d'être considéré à sa juste valeur. Et c'est ce pourquoi on est élu, c'est de défendre les citoyens de Québec. Je pense qu'il y a toujours eu une écoute parce que c'est important pour les gens du Québec, la capitale. C'est pas leur seule importance. Les gens de Montréal ont aussi des défis, les gens des régions, les gens de toutes les régions du Québec. J'inclus Montréal et Québec comme des régions, là, on n'est pas des centres.
Ouais.
Les autres sont en périphérie, mais je pense qu'il y a une bonne écoute pour la capitale, il y a une volonté, puis on réalise que plus notre capitale, mieux elle se porte, plus on est fort sur l'ensemble du Québec. Parce que c'est ça aussi une capitale, c'est un point d'ancrage, c'est un lieu de rayonnement, c'est un lieu qui après ça permet à d'autres territoires de rayonner. On a besoin au Québec d'une capitale forte, d'une capitale qui est un pôle économique fort, qui est un pôle d'innovation, et je pense que moi je trouve que les vents sont vraiment favorables pour la suite des choses.
Vous vous êtes placé justement défenseur de beaucoup de dossiers de Québec. Vous avez pris position là, de manière forte. Vous le dites, la une ce matin du Journal de Québec, elle est là sans équivoque quand même. Là, c'est assez frappant de voir à quel point vous défendez justement là, certains de vos points, certaines de vos batailles là, avec véhémence là, sur la scène. Un des champs de bataille sur lesquels on ne vous a pas vraiment vu prendre position encore, c'est sur le troisième lien, M. Marchand. Est-ce que vous êtes capable de dire à ce point-ci, pour le troisième lien, contre le troisième lien, est-ce qu'on peut avoir une réponse claire de votre part à ce point-ci?
Non, je vais vous décevoir, c'est non la réponse. Et puis c'est pas parce que je... C'est pour moi, la réponse est claire présentement. On a besoin d'avoir plus de données, plus de faits, plus d'études. Alors, le gouvernement a un projet. Il a le projet il l'a énoncé fréquemment, d'avoir un troisième lien. Il a même amené une deuxième vision de son projet dans les derniers mois. Et ce qu'on a besoin pour évaluer ce projet-là, bien, c'est de savoir où il va sortir. C'est de savoir quels vont être les coûts environnementaux, quels vont être les effets positifs en matière environnementale, quelles vont être ses conséquences sur la circulation, sur l'étalement urbain. Alors moi, j'ai toujours dit ça, c'est les mêmes questions depuis un an que je pose, et je suis pas impatient d'avoir les réponses, parce que c'est le projet du gouvernement, il a le droit de prendre le temps. Ce ce que moi je dis, c'est que ça prend ces réponses-là avant qu'on puisse se positionner. Mmh. Alors, c'est comme si vous me disiez, moi, toi, on a un projet ensemble, on va construire une usine. Ben, je peux bien dire oui, c'est une bonne idée. Je peux bien dire non, c'est une mauvaise idée. Je pense que la bonne réaction d'un maire, c'est de dire, ben, OK, ça veut dire quoi? Ça coûte combien? C'est quoi les effets? Qu'est-ce qu'on va y faire? Comment on va rentabiliser cette usine-là? Quel va être le bénéfice pour les citoyens? C'est exactement ce qu'on pose comme question. Ouais. Le gouvernement s'est donné du temps pour le bâtir, ce projet-là. Moi, je pense qu'il a tout intérêt à répondre à ces questions-là, qu'il veut le faire, et les prochains mois vont nous permettre d'avoir ces réponses-là.
Oui, je vous comprends de vouloir avoir plus de données là-dessus. En même temps, avez-vous peur que, en se lançant justement dans des études sur toutes sortes d'enjeux, que ce soit environnementaux, que ce soit sur l'étalement urbain, comme vous venez de les nommer, avez-vous peur que ça fasse un peu comme pour le tramway, justement, où il y a des études qui sortent, qui sont en faveur, il y a des études qui sortent, qui sont en défaveur, faveur, défaveur, défaveur, faveur, et au final, le projet avance pas?
Oui, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Puis, quand je parle qu'on a besoin de la science, qu'on a besoin des données, il reste, quand je dis ça, c'est pas la science qui devient politicienne. La science, ça doit servir aux politiciens pour s'appuyer, pour présenter les faits sur lesquels ils bâtissent leur jugement. Mais au final, bon, prenons l'exemple de la pandémie. Dans la pandémie, il y a eu des fois où la science divergeait, où des fois on avait des incertitudes, où la fois la science n'était pas assez avancée. Ça supposait de la part des élus du Québec, du Canada et d'ailleurs dans le monde de prendre des décisions. C'est la même chose dans le cas de projets collectifs, c'est la même chose dans le cadre de grands projets. On doit s'appuyer sur les faits, sur les données. Après ça, admettons que, prenons un exemple. Le ministère de l'Environnement fait une étude, le ministère des Transports en fait une autre, peu importe, d'autres groupes, et on arrive au constat que le troisième lien ne peut pas être carboneutre avant 50 ans, avant 60 ans. Je dis n'importe quoi en passant.
On se comprend, c'est un exemple.
C'est ça. Présumons le pire, admettons.
Oui.
Le premier ministre a quand même le droit de dire, voici les études, voici les faits, mais moi, je décide d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce que je mets en priorité ces arguments-là plutôt que l'argument environnemental. Il aurait le droit de faire ça. Il est élu, puis son équipe, c'est celui qui sera élu, celle ou celui qui sera élu, ont le droit, par leur légitimité et de par leur rôle électif, de dire, ben moi, je prends des décisions. On s'attend à ça de nos élus. Alors, prenons l'exemple du tramway. Ben, c'est la même chose. Il y a des gens qui pourraient dire, oui, mais si on avait un métro à Québec, comme à Montréal, ça irait plus vite. Alors, c'est vrai que les déplacements en métro seraient plus rapides. C'est un avantage. Il y a des inconvénients au métro.
Oui, faut le creuser pour commencer. Ouais.
Ça prend une population qui le supporte. On n'a pas la population de Montréal. Ça coûte plus cher à être carboneutre. Ça prend plus de temps à être carboneutre. On parle de 5 fois plus de temps. Donc, le projet de tramway Québec, il va prendre 9 ans à être carboneutre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les coûts d'émissions de GES par la construction, la fabrication de matériaux, le fait de creuser, le fait de bâtir, ça va prendre 9 ans d'utilisation après pour qu'on dise ce projet-là, il n'a rien coûté à l'environnement. Il est carboneutre maintenant. Tout ce qu'on fait dans la suite des 9, après les 9 années, là, ça va être de l'économie d'émissions de GES.
Ouais.
Ben, un métro, c'est 5 fois plus de temps. Donc, pour les mêmes coûts, là, ça ferait 45 ans au lieu de 9 ans. Alors, c'est des choix qu'on fait. Et la science ne dira pas un métro c'est bien ou un métro c'est mal, un tramway c'est bien ou un tramway c'est mal. Elle va dire voici les avantages, les inconvénients, voici pourquoi, voici comment ça prend tant de carbone, voici ce que ça coûte. Et après ça, on peut fonder sa décision puis en disant mais voici sur quoi je m'appuie. Mais ouais. Donc, vous avez raison de dire que la science peut nous permettre de tergiverser, mais c'est aux politiciens à un moment donné de dire on a assez entendu de voix, on avance.
Justement, et à ce moment-là, donc, vous prendrez position claire quand vous aurez toutes les données scientifiques en main, c'est ça?
Ben, est-ce qu'on les aura toutes? On verra. Il y aura peut-être, comme vous le dites, des études qui seront peaufinées, du monde qui contesteront des éléments. La ville de Lévis a sorti la semaine passée une étude sur l'impact en matière de PIB sur la région de la construction du tunnel. Il y a des chiffres là-dedans intéressants. Il y a des chiffres qui sont contestés. Il y a des gens qui disent, ben, on n'a pas pris la bonne méthode. Bon. Ça reste ça, le débat démocratique.
Oui, absolument.
Au final, après ça, on s'en sert et on se dit, ben voici, est-ce qu'on est d'accord ou pas?
Oui, puis c'est juste parce que des fois, c'est long un peu, là, ces tergiversations-là. C'est long, puis les projets, là, on s'étire en études jusqu'à ce que ça n'arrive ou n'arrive pas au final. Mais je vous comprends absolument notre vouloir avoir toutes les données en main. Monsieur Marchand, en terminant, j'en parlais au début.
Mais vous avez raison. Ouais. Vous avez raison de dire que parfois, ça va
la démocratie, c'est long. La démocratie, c'est long. C'est lent, puis il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à comprendre ça là, dans certains milieux, là, entre autres, de comprendre que la démocratie libérale, c'est lent.
Mais des fois, oui, vous avez raison, mais des fois, le temps ne nous épargne pas les choses qu'on fait sans lui. Et c'est une maxime que m'avait dit l'ancienne ministre Péquiste, Linda Goupil, et on a raison, notamment sur les grands projets. ce qu'on fait sans le temps, ce qu'on fait sans prendre le pouls des citoyens, mais des fois, on le paye et c'est plus long par après. Et, ouais. Et être un groupe, être une communauté, ça avance des fois un peu moins vite, mais peut-être plus solidement. Alors, on a toujours dit ça. Le meilleur système, là, c'est un monarque, c'est un roi, c'est un despote qui décide par lui-même, pour lui-même. Les choses avancent. Maintenant, à travers les yeux d'une seule femme ou d'un seul homme, c'est rare qu'on ait la vérité.
Voilà. Le despote éclairé, c'est une belle utopie, mais ça arrive, là, malheureusement, pas souvent.
Ben, c'est pas encore arrivé.
Non, c'est pas encore arrivé. Écoutez, M. Marchand, en terminant, là, j'en parlais un peu en début là, d'entrevue. Au départ, là, vous aviez là, justement cette espèce d'ombre-là au-dessus de vous, là, Régis Labeaume, 14 ans politique, après énormément de place, vous arrivez justement pour le remplacer, vous lui succédez. Tout le monde a parlé en départ, là, des grands souliers à remplir. C'était des caricatures dans les journaux. On a dit ça énormément au début. 6 mois plus tard, pensez-vous que vous êtes sorti un peu de cette iconographie-là qu'on vous donnait là, du successeur de M. Labeaume et que vous avez pris votre place comme maire de Québec maintenant?
Oui, définitivement. Puis ça n'enlève rien à M. Labeaume. Là.
Bien sûr.
Ça n'enlève rien à tout comme ce que M. Labeaume a fait, ça n'enlève rien à ce que la Montagne, ce que l'Allier ont fait. Mais je pense qu'après 6 mois, la transition est définitivement chose du passé. C'est une nouvelle ère. Autre terre, autre mœurs. On avait besoin d'autres choses à Québec. C'est pas une critique de ce qui s'est fait avant du tout. C'est ça comme ça quand moi je quitterai dans 4 ans, dans 8 ans, dans 12 ans, peu importe quand. Il arrive d'autres mondes qui ont d'autres idées. Et je pense qu'on est sur une ère d'aller intéressante qui bâtit à travers ce qui s'est fait dans les précédentes années. Moi, je pense que la démarcation est claire.
Dans 12 ans, M. Marchand, vous êtes là pour longtemps?
Bien, je disais dans le journal, puis des gens de mon équipe disaient « tu ne devrais pas dire ça ». Je vais me permettre de vous l'expliquer. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée parce que je ne travaille pas pour être là 12 ans. Je ne travaille pas pour être là 8 ans. Je travaille pour donner le meilleur de moi-même, tout ce que j'ai, le plus que j'ai, même ce que j'ai pas pour la ville, parce que j'y crois, parce que je pense que c'est ce qui permet de faire des belles villes, c'est l'engagement de différentes personnes dans des rôles. Après ça, ben si je suis pas bon, là, faut accepter à un moment donné, quand on n'est pas bon, de dire ben d'autres meilleurs prendront la place, ou si j'ai pas la santé, on verra, mais donc, ou si les citoyens en veulent pas, ou sont pas d'accord, ou aiment pas ça. Fait que c'est une question de volonté, de capacité, mais aussi de volonté des citoyens. Faut savoir écouter les gens. Fait que moi, je m'imposerai pas. En même temps, j'adore ce que je fais. C'est stimulant. Je pense qu'on fait des choses vraiment intéressantes qui sont appréciées, qu'on entend beaucoup de bons commentaires. Fait que la suite sera à dessiner, mais on va commencer par le premier mandat. On va commencer par répondre à la confiance que les gens nous ont donnée. Puis si on est digne de cette confiance-là, on pourra envisager la suite.
Oui, parce que vous avez encore 3 ans et demi quand même là, à Québec pour mettre à terme vos projets. Monsieur Marchand,
on a
gros...
On a fait ça dans nos bottines plusieurs fois.
C'est vrai ça, c'est vrai Monsieur Marchand. Merci beaucoup Bruno Marchand, maire de Québec, d'avoir été avec nous ce matin.
Un très bel été.
Au revoir.
Alexandre Morin-Ville-Ouellet, journaliste dévoué, il n'a pas peur de se brûler. Il touche à tous les sujets chauds de l'actualité.
Je rejoins mon collègue Mathieu Boulay, journaliste sportif au Journal de Montréal, à Wimbledon en direct. Bonjour Mathieu. Est-ce que Mathieu est avec nous? La connexion avec Wimbledon oui. Semble difficile. De l'outre-mer, Mathieu, m'entends-tu?
Salut!
Salut!
Est-ce que vous m'entendez bien?
Je t'entends très bien maintenant, Mathieu. Problème de connexion réglé. Écoute, je sais que c'était pas dans tes sujets, mais je voulais te lancer rapidement. J'ai vu ça du coin de l'œil tout à l'heure passer. Est-ce que j'ai bien vu où Nick Kyrgios, le fameux délinquant là, du tennis, aurait craché sur un spectateur à Wimbledon? C'est-tu vraiment arrivé?
Ouais, ben c'est arrivé. C'est arrivé il y a deux jours. C'est arrivé. Lors du match de premier tour de Kyrgios, il affrontait Paul Jude, le Britannique. Et pendant les 5-7, pendant les 5 manches là, du match entre les deux, il y a un partisan britannique qui était visiblement un gars qui prenait pour le local. Et là, il a invitivé Kyrgios pendant tout le match. Mais le spectateur n'a pas été expulsé, puis pourtant Kyrgios a demandé au service de sécurité de le mettre dehors, tu sais. Alors, okay. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Kyrgios, à la fin du match, a craché sur le partisan, Mais je pense qu'il avait, il avait comme poussé le bouchon pas mal, le partisan, puis Kyrgios a décidé de régler ça à sa façon.
Ouais, c'est pas bien ben glorieux pour Wimbledon. On verra comment ils vont agir. Reste, là.
Moi, je te dirais, Alexandre, là, comme je n'ai parlé hier à Patrick Derry hier soir, moi, qu'est-ce que j'ai un peu de misère, c'est que quand tu achètes un billet pour un événement sportif, pour un out ou n'importe quoi, est-ce que tu as le droit de tout faire parce que tu payes le prix pour assister à un événement de divertissement?
Ouais, on est d'accord, ça manque de classe là, aussi du côté
des deux
du spectateur.
Bords, des deux bords, là, pas un plus que de l'autre. Kyrgios, c'est pas un sport d'enfant de cœur. Après ça, en conférence de presse hier, là, il a poussé à la limite un peu. Il a décidé de manger des sushis en parlant aux médias.
Ouais, mais il est réputé pour ces coups d'éclat là. T'sais, on va. Il va continuer à être lui-même.
Qu'est-ce qui est le plus frustrant avec Kyrgios? C'est que ce gars-là a un immense potentiel. Quand il se met à jouer, là, c'est tout un joueur. Puis je pense que ce gars-là, là, il vient de gagner son match. Là. Il a gagné son match contre Krajinovic. Possiblement, pas loin des deux doigts dans le nez. Parce qu'il était supérieur, parce qu'il est capable de jouer au tennis. Oui, il fait le con, mais il est capable de jouer au tennis aussi. Là.
Bon. Il y a nos deux Canadiens aussi, hein, qui jouent aujourd'hui, qui sont capables de jouer au tennis. C'est Bianca Andreescu et Denis Shapovalov qui se mettent en branle aujourd'hui.
Oui, là, présentement, là, sur le terrain, c'est Bianca Andreescu qui affronte la Kazakh Elena Rybakina. Et là, malheureusement, Andreescu a perdu le premier set au compte de 6-4. J'ai raté les derniers points du premier match pour vous parler. Mais qu'est-ce que vous voyez aussi, c'est qu'Ebatina a beaucoup de puissance au service. Elle frappe très, très lourde, elle frappe de façon très pesante la ligne de fond. Et j'ai l'impression que Bianca va être amenée à remonter la pente. Parce que Rybakina est vraiment une 17e favorite du tournoi, une des meilleures joueuses au monde présentement. J'ai l'impression que Bianca va avoir de la difficulté à remonter la pente en deuxième manche.
Bon, tu vas pouvoir continuer à suivre ça.
Suite après, sur le même terrain, Denis Shapovalov va affronter Brandon Nakashima, l'Américain. Du côté de Shapovalov, c'est une question de confiance, parce qu'il a l'air, physiquement, il a l'air très bien. Donc, j'ai l'impression que Shapovalov pourra avoir un meilleur sort que celui de Bianca Andreescu. Mais Andreescu, je la l'appelle pas tout de suite. Là. J'ai hâte de retourner à l'intérieur sur le côté du terrain pour voir qu'est-ce que Bianca va faire d'ici la fin du match.
Ouais, parce qu'Andreescu, tu as eu accès quand même à quelqu'un qui est très proche d'elle, qui l'aide dans sa préparation physique, entre autres. Tu l'as croisé, Abdul Sila.
J'ai pas croisé. J'ai fait une demande d'entrevue à Abdul Sila parce que je savais qu'il travaillait avec Bianca. Et Abdul m'a donné le privilège d'une bonne discussion d'une bonne 20-25 minutes avec lui. Ce gars-là, c'est une personne à connaître. Les préparateurs physiques, là, on les sous-estime des fois, mais c'est des gars qui travaillent en l'ombre avec les athlètes, mais ont un immense rôle avec les athlètes au niveau de la préparation. Bianca Andreescu, avant de revenir vraiment pour de vrai là, dans le monde du tennis sur le circuit de l'UETA, ben elle a fait un camp de 8 semaines de dur labeur dans le gymnase avec Abdul. Puis Abdul, ben il l'a pas ménagé. Il a dit bon ben si tu veux t'entraîner puis que tu veux vraiment revenir au tennis, on va le savoir là. Fait que là, il l'a mis à l'épreuve, il l'a appelé à 3h du matin des fois pour aller s'entraîner, mais elle avait 15 minutes pour se présenter. Au gymnase, puis Bianca a répondu à toutes les demandes et les exigences de son entraîneur, et aujourd'hui, moi, je trouve qu'elle c'est une fille qui est en meilleure forme physique, puis au niveau de son visage et de son corps, on voit vraiment qu'il y a eu des changements, puis qu'il y a eu du travail qui a été effectué sur elle.
Avant de te laisser filer, puis aller écouter le reste du match, hier, ça s'est conclu, la Coupe Memorial, et les Sea Dogs sont champions devant leurs propres partisans hier.
Oui, les Sea Dogs de St. John's ont remporté la Coupe Memorial devant leurs partisans hier. Une belle conquête pour les Sea Dogs. Ils ont gagné la Coupe Memorial en ayant eu une pause de 38 jours, la deuxième plus longue de l'histoire de la Ligue canadienne de hockey. Et je pourrais dire que ça a suivi lire de certains journalistes qui couvrent le hockey, qui disent que c'est un peu n'importe quoi, qu'une équipe qui est éliminée, une équipe qui est haute, qui accueille la compétition, puis qu'ils décident et qu'ils sont éliminés rapidement dans les séries éliminatoires, mais c'est un peu une joke qui, après ça, dans 30 jours plus tard, peut revenir puis gagner la Coupe Memorial. C'est un raisonnement qui est un peu particulier, je dois dire. Mais je comprends aussi les gens, mettons, les gens qui déposent une mise à la candidature, qui veulent que leur équipe soit là, tu sais, au tournoi. Ouais. Faut pas avoir une équipe, mettons, je sais pas, moi, ça serait Québec puis Shawinigan qui aurait été à la Coupe cette année. Mais je suis pas sûr qu'il y aurait eu des bonnes foules, dans l'aréna des Sea Dogs. Tu comprends?
Ouais.
Je pense que, avant de revoir le règlement, des fois, l'équipe, le truc de l'équipe haute, là, l'équipe hôtesse, là, je dois dire que je suis moins avec quand les équipes ont des longues pauses, puis qu'ils viennent gagner la Coupe Memorial, ben je trouve que ça teinte un peu le travail, mettons, les Bulldogs d'Hamilton, les Canucks de Shawinigan, puis les All Kings de Edmonton, ben ils ont gagné le série éliminatoire, ils sont arrivés là-bas, ils étaient maganés. Puis là, ben les séries, eux autres, étaient reposés, frais. Puis là, ben ils ont gagné la coupe, c'est parce qu'ils étaient frais et dispo ou c'est parce qu'ils étaient vraiment la meilleure équipe au Canada? Ça, je ne sais pas.
Mmh. Ouais, c'est sûr, parce qu'en plus des séries éliminatoires, Dieu sait que ça magane en bon français, là, une équipe. Et les joueurs, Mathieu, on te laisse à ton match de tennis. On souhaite que Bianca Andreescu puisse l'emporter et puisse remonter là, la pente dans ce match-là. Tu pourras nous en parler lundi prochain, parce que demain, nous sommes en congé pour la fête du déménagement. Mathieu Boulay, journaliste sportif, gros merci d'être avec nous. À la semaine prochaine.
Merci.
Alexandre Moranville-Ouellet. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société. Tout en débattant des enjeux de société.
Je suis rejoint par mes collègues Julia Paget et Rémi Villemur qui est en studio aujourd'hui de la belle visite. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Salut.
On te salue de loin, Julia. Écoute, je regarde rarement, en fait, là, les palmarès de musique, hein, les tops musicaux, hein, ceux qu'on retrouve au haut du classement. Je les regarde assez peu souvent, mais là, je vous avoue, vous avez attiré mon attention sur ce haut de classement-là qui comprend beaucoup, mais beaucoup de chansons qui sont, et puis on parle d'un palmarès francophone, là, beaucoup de chansons en franglais. Est-ce que ça a sa place, ça, dans un top francophone, des chansons en franglais, Julia?
Ben, j'avoue que je suis un peu mitigée sur la question parce que j'ai envie de dire, évidemment, d'emblée, on se dit non. Non, ça n'a pas sa place. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de ceux qui font de la musique en franglais. Je pense à Loud, je pense à Clean Friends, Zach Zoya et j'en passe, qui viennent de quartiers soit plus défavorisés, soit plus multiculturels, soit qui sont eux-mêmes immigrants ou qui ont des parents immigrants pour qui le français, c'est genre la deuxième, troisième langue. Alors pour eux, le franglais, c'est pas un caprice, une mode américaine, un manque de volonté. C'est vraiment juste leur réalité. Donc pour moi, le franglais fait aussi partie du paysage francophone. Après, si ça prend toute la place dans les palmarès francophones, on a peut-être un petit problème, mais faut pas être de mauvaise foi et penser qu'il y a comme un grand remplacement du français au franglais.
Ça a sa place, Rémi?
Ben, moi, je vais peut-être vous surprendre, je suis pas interventionniste sur les questions artistiques.
Okay.
Je veux dire, le bannissement, la censure, je laisse ça à la gauche.
Mais pour les palmarès?
Ben, en fait, c'est là le point intéressant aussi, c'est que je trouve qu'on est un peu malhonnête et de mauvaise foi quand on considère que du franglais, c'est du français. C'est-à-dire que si le franglais, c'était du français, ça s'appellerait pas du franglais, ça s'appellerait du français. Mmh. C'est aussi simple que ça. La langue est vaste et diverse, il y a plein de mots qu'on peut utiliser. Et là, il se trouve qu'on utilise franglais pour définir une autre langue qui se trouve, elle, à être la rencontre entre le français et l'anglais, et pas une rencontre que je trouve si heureuse que ça, si consensuelle que ça, si consentante que ça, dans le contexte québécois. C'est-à-dire que l'anglais et le français sont en conflit au Québec. Il y a une nation de 8 millions de personnes au Québec qui habitent sur un continent de 400 millions d'anglophones. Et là, on imagine que parce que dans des chansons, il y a 50%, 55%, 60% d'anglais, des fois, c'est heureux, c'est festif. Mais non, il y a une lutte qui est en jeu et c'est un combat qui est inégal. C'est comme un combat de sumo entre un gros, gros, gros sumo bien gras puis un gringalet. Puis là, on se dit, ben, ça va finir égal, ce combat-là. Mais non, pas du tout. Il suffit de voyager dans le Canada, par exemple, en Acadie, pour voir que la rencontre entre le français et l'anglais, c'est une rencontre qui est conflictuelle et c'est ce qui risque d'arriver. Mais je n'interviendrai pas. Moi, je veux dire, j'approcherai pas des artistes de créer en franglais. C'est vrai que les artistes sont le reflet d'une partie de la société, montréalaise, en l'occurrence.
Ouais, mais d'un autre côté, par contre, si on y va, puis je vais aller toucher ta fibre historique, peut-être, tu sais, le franglais, je sais pas si c'est comme ça qu'on appelait ça avant, mais on a utilisé tellement de mots anglophones dans l'histoire du Québec qu'on a pris pour nous, là. Tu sais, je m'en vais à shop travailler aujourd'hui. Maintenant, ça se dit, puis moi, j'ai presque l'impression, tu sais, qu'on parle en français. Ce franglais-là, il est historique, il est vieux, puis il y a une histoire, quand même, du franglais. Est-ce qu'on devrait pas le comptabiliser presque dans la culture québécoise, Julien?
Moi, je pense qu'il faut faire une distinction entre l'anglais américain, l'anglais du rock, là, du rest of Canada, puis l'anglais qui peut être parlé par des immigrants ou des gens issus des milieux de l'immigration, de près ou de loin, qui sont en transition vers le français. Tout ça, c'est pas la même expérience. Puis il y a pas nécessairement une américanisation, je le disais. C'est vrai que, je l'ai dit plus tôt, idéalement, ce serait juste en français. Mais ces gens-là font l'effort de chanter quand même en français et pourraient se tourner vers le reste du Canada ou les États-Unis. Je pense pas qu'il y a ce grand remplacement. Je pense pas que c'est si dangereux que ça. Moi non plus, évidemment, je n'interviendrai pas. Mais je pense qu'en se confinant aux Français que nous, on parle, disons, on exclut beaucoup de gens qui ont pourtant un intérêt pour le français, visiblement, puisqu'ils le chantent. Puis quand on chante en franglais, on se refuse une carrière aux États-Unis ou dans le reste du Canada. Moi, je vais toujours choisir une chanson en franglais à la radio plutôt qu'une chanson française de France, par exemple.
Ouais, mais en même temps, est-ce que le franglais, ça passe mieux? Une autre question qui me vient. Est-ce que ça passe mieux quand c'est dans certains genres musicaux? Bon, je pense entre autres au rap. T'sais, le rap, c'est un style qui, historiquement, va s'accaparer des inspirations d'un peu partout, de d'autres styles, de d'autres genres, de d'autres cultures, de d'autres langues, on le voit là. Est-ce que ça a sa place plus dans le rap qu'ailleurs, Rémi?
Ça a sa place partout. Faut pas intervenir. Faut laisser les choses quand même. Les choses telles qu'elles se passent, elles nous disent quelque chose. Mais je suis pas d'accord que les artistes qui chantent en franglais se ferment à une carrière internationale. Là, je regardais récemment, un peu par hasard, les détails de la tournée de Loud, puis ils présentent des spectacles dans le Canada anglais tout l'été. Là. Donc, je pense pas qu'ils présenteraient des spectacles dans le Canada anglais s'ils chantent en français, exclusivement. Ouais. Ils s'en vont pas juste dans des villes où il y a des concentrations fortes de franco-canadiens. Là. Je dis, il faut juste se poser la question. Tu parlais de la chope, du langage, du joual, de l'ouvrier des années 50-60. Cette personne-là n'était pas en situation de supériorité par rapport à sa langue.
Non.
C'est un ouvrier qui travaille pour un boss, puis il adopte le langage du boss. Donc, c'était pas positif à l'époque, et je me demande si ce l'est devenu aujourd'hui. J'en doute.
Non, je comprends, mais il y a quand même un... On peut parler quand même de premier, si on veut, d'ancien franglais, peut-être. Est-ce que moi je pose la question, est-ce que le franglais, on devrait le prendre puis le mettre justement à part entière, une nouvelle catégorie, le top de la musique franglaise, oui. Par exemple. Est-ce qu'on devrait parler de l'histoire du franglais comme bien une richesse de la nation québécoise? On l'a utilisé justement à un moment où on avait une infériorité de langue. On l'a utilisé pour, justement, ben, se débattre, se dépêtrer dans tout ça. Et aujourd'hui, c'est rendu ben un outil, justement, pour exporter peut-être des produits culturels comme ça dans le rest of Canada. Est-ce qu'on devrait créer une nouvelle catégorie à part entière pour le franglais, Julia?
C'est pas fou. J'avoue que j'y avais pas pensé. Puis c'est vrai que c'est intéressant, cette notion du franglais qui était parlé avant versus le français, le franglais qui est parlé aujourd'hui. C'est vrai qu'on a moins le rapport boss-ouvrier. Bon, ça peut se faire encore, mais dans la musique, en tout cas, c'est moins ça. Puis quand on utilise le franglais, on n'utilise pas l'anglais de notre patron. On utilise l'anglais d'un autre pays, des Américains, par exemple. Le rapport est complètement différent. Moi, je serais assez pour une catégorie franglais, même si, bon, ça apparaît peut-être un peu absurde, là, mais peut-être de plutôt avoir une catégorie française un peu plus restrictive. Mais après, est-ce que les catégories françaises incluent les Français d'outre-mer, de l'Afrique, du Maghreb, de la France, d'ailleurs? Ça, je sais pas, puis ça pourrait aussi enrichir notre français ici, pourquoi pas?
Franglo-québécois, à ce moment-là?
Oui!
Ben, moi, j'ai juste la difficulté à considérer que c'est du français, c'est tout. Si c'était du français, ça s'appellerait du français.
C'est ça, c'est du franglais.
Donc, une catégorie franglaise, moi, je suis pour ça. Oui, en faveur.
Complètement différent.
Je vote pour.
Bon. On parlait évidemment là, toute la semaine, on en a parlé, puis ça revient là de tout ce qui est logement. Hein, c'est demain quand même la fête du déménagement. Mais quand on parle de logement, on parle d'habitation, on parle d'immobilier. Moi, il y a un autre dossier qui est venu me chercher celui des bureaux, hein, parce que oui, moi, je suis appelé à travailler ici comme ça dans le bureau de Cube Radio, puis parce que qui dit bureau dit studio, c'est comme ça que je peux vous parler ici, j'ai pas le choix d'être ici, mais de ramener les employés au bureau, ça s'avère quand même une difficulté, encore plus dans les entreprises qui, par exemple, œuvrent majoritairement dans le numérique. Il y a des géants du web, là, par exemple, comme Google, qui font des pieds et des mains au final pour ramener les gens au bureau, qui vont créer des espaces justement de travail collaboratif qui sont complètement déments. Il y a des installations qui sont vraiment exceptionnelles. Est-ce que vous pensez, vous, que, est-ce que vous croyez encore au bureau? Avez-vous la foi en le bureau, Rémi?
Ben là, tu parles à quelqu'un qui écrit dans la vie, donc je te dirais que je crois à mon bureau, peut-être pas au bureau des autres, mais...
Un bureau partagé?
Un bureau partagé où je suis un peu... j'ai pas encore fait toute ma tête là-dessus, mais je sais qu'il y a quelque chose qui est très manifeste de la nouvelle génération. Les gens veulent de moins en moins travailler. Ça, les dossiers s'accumulent dans la presse, des semaines de 4 jours, des journées de 6 heures, des après-midi off le vendredi, et à partir du moment que les entreprises savent que ça existe, ce phénomène-là, elles sont appelées à réinventer l'organisation du travail, de l'expérience du travail à proprement parler. Donc, elles se disent, si je veux ramener mon employé au bureau, je suis quand même mieux de faire en sorte qu'il ait l'impression qu'il est un peu chez lui. Parce que sinon, lui, il insiste. Google dit que à peu près 10% de leurs employés ne veulent pas revenir. Puis l'excuse qu'ils donnent, c'est la COVID. Mais c'est tellement l'argument parfait. Mais c'est pas à cause de ça que les gens veulent pas revenir.
Parce que c'est beaucoup plus plaisant de travailler en jogging chez soi.
Et c'est que le prétexte existe, donc on l'utilise. Donc Google s'est dit, on va faire en sorte que quand ils arrivent au travail, ils aient l'impression d'être chez eux. Des coussins, une cantine, de la musique, une ambiance. À ce moment-là, t'es un peu chez toi, t'es un peu au travail. On peut pas être contre la vertu. Mais qu'est-ce que Google essaye de faire à long terme? Ça, c'est une question que je me demande, parce que Google n'a pas la réputation de faire des choses en petit, hein. Je pense qu'ils inventent un peu, ils ont réinventé l'humanité. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que Google essaye de faire? Je me dis, Google essaye peut-être de faire en sorte que, à long terme, les gens confondent le travail et le quotidien. Si tu arrives au travail et que tu es comme chez toi, mais dans le fond, l'heure de plus que tu devrais pas consacrer parce que tu débordes sur ton horaire, tu vas peut-être la faire. T'es quasiment mieux au travail que tu es chez toi. Donc, peut-être que la vision à long terme de ces entreprises-là, c'est de faire en sorte qu'on confonde le quotidien et le travail.
Julia, toi qui es une académique en ce moment encore en train de travailler, ben, tout comme Rémi, mais est-ce que toi, tu crois en le bureau? As-tu foi en le bureau?
Moi, pendant la pandémie, je n'avais pas foi en le bureau. Et maintenant, je pense que oui. Si vous m'aviez demandé il y a comme quelques mois, j'aurais dit, ben non, télétravail, on est chez soi, on sauve du temps, on est plus confortable, on s'habille comme on veut. Mais il y a d'autres enjeux peut-être qui rentrent en ligne de compte. Premièrement, c'est pas tout le monde qui a les mêmes conditions de télétravail. Pour certains, la maison n'est pas un lieu propice à être assis à son ordinateur toute la journée. Aussi, de vivre, manger, dormir, travailler dans le même endroit qui est pour la majorité des gens pas très grand, ça peut être lassant, déprimant. On est comme dans une cage de lion. Et ça nous coupe aussi beaucoup de socialisation. Je pense que 10% des gens qui veulent pas revenir au bureau à Google, moi, j'aurais pensé que ce soit beaucoup plus que ça, mais visiblement, les gens ont envie de rencontrer des gens à l'âge adulte. Comment on socialise? Ben, c'est au bureau. On se fait des nouveaux amis, des nouvelles relations. Ça peut briser un peu la solitude du télétravail. Après, moi, je suis vraiment de l'avis de Rémi. Je pense que ce que Google fait et plusieurs autres grandes compagnies, c'est de vraiment brouiller les lignes entre la vie personnelle et la vie au travail. Ils ont un barista, un studio de yoga, des œuvres d'art. Mais, je veux dire, c'est surtout bien d'avoir des vacances, des fins de semaine, des horaires raisonnables. Puis ça, c'est pas nécessairement ce qu'ils proposent dans leur nouvelle façon de voir le travail.
Ouais.
Donc, barista, je veux bien, mais bon, il faut qu'il y ait des changements, peut-être un peu plus de fond.
Oui, de fond, mais je pense qu'après la pandémie, il y a quand même une vertu à revenir ici en personne et de rencontrer ses collègues, qui sait, hein, il y a des amitiés, même des rencontres amoureuses qui peuvent se faire pour le restant de nos jours, hein. C'est pas pour rien qu'il y a autant de sitcoms de travail, de comédie au travail. Julia, Rémi, merci à vous deux, on se reparle lundi.
Merci.
Merci.
Alexandre Morinville-Ouellette. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Cube Radio.
Un peu plus tôt, aujourd'hui, on voyait le président américain Joe Biden donner un discours à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, hein, qui est réunie à Madrid en ce moment, élabore toutes sortes de nouveaux concepts stratégiques, entre autres là, de position sur la Russie. Justin Trudeau qui a déclaré aujourd'hui là, que le Canada allait fournir à l'Ukraine là, jusqu'à 39 véhicules blindés de soutien de combat, des caméras de drones encore qui s'ajoutaient à celles déjà envoyées. Bref, nouvel envoi d'équipement. Tout ça en plus d'annoncer hier le déploiement de davantage de soldats en Lettonie. Pour revenir sur toutes ces annonces, parce que ça a brassé beaucoup au sommet de l'OTAN, Justin Massy, professeur au département de sciences politiques de l'UQAM et co-directeur du réseau d'analyse stratégique. Monsieur Massy, bonjour.
Bonjour.
Alors, premièrement, là, qu'est-ce qui est à retenir là, pour un auditeur qui n'a pas eu le loisir dans les derniers jours, qui ont été un peu fous en actualité, de suivre ce qui se passait à l'OTAN? Là. Qu'est-ce qu'on retient comme point majeur, comme nouveau développement?
Ben, c'est un peu l'aboutissement là, de la transformation de l'OTAN depuis l'invasion de l'Ukraine du 24 février dernier. L'OTAN réalise maintenant, l'OTAN, l'alliance transatlantique là, qui réunit l'Europe, le Canada et les États-Unis ensemble, réalise que la Russie est une menace pas juste théorique, elle est très concrète. Et là, ce qu'elle veut faire, c'est augmenter sa présence dans les pays qui partagent une frontière avec la Russie, là, les Pays-Bas, Lettonie, l'Estonie, Lituanie, notamment. Pologne et d'autres pays, pour renforcer leur présence, pour dissuader la Russie d'élargir le conflit à d'autres pays. Donc, après l'Ukraine, qui pourrait intervenir dans d'autres pays. Donc, l'idée, c'est de les dissuader en ayant une présence militaire plus forte. Donc, le Canada dirige un des bataillons là-bas, en Lettonie, nommément. Il y a environ 700 là, soldats canadiens là-bas. Et là, ce qu'on s'engage à faire, c'est que les bataillons là-bas vont augmenter. Le Canada n'a pas dit s'il allait, lui, augmenter son nombre de troupes à lui, mais il y a beaucoup de pression pour qu'ils le fassent, mais tous les pays de l'OTAN se sont engagés à augmenter leur présence là-bas et à fournir plus de soutien aussi à l'Ukraine dans les semaines et mois à venir.
Ouais, on parle de cette nouvelle annonce du Canada. J'ai vu d'ailleurs là, plusieurs observateurs, dont vous, là, sur Twitter, parler dans les derniers jours avant que ça soit annoncé, justement, que c'était quelque chose que le Canada se devait de faire, qu'on était en retard, à la traîne. C'est une critique qui revient là, fréquemment. On demande une aide du Canada, on demande un montant, un chiffre, par exemple, en équipement, puis on donne toujours une fraction de tout ça. Est-ce que vous trouvez que le Canada est à la traîne et est en train de faire trop peu, trop tard?
Le Canada en fait quand même pas mal. Il faut nuancer, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui en font beaucoup moins que le Canada. Donc, on est un peu entre les deux, mais on est loin par rapport à nos paroles. C'est ça le problème. C'est que le Canada déclare qu'il veut que les Russes perdent la guerre en Ukraine, qu'ils veulent une défaite totale de la Russie. Et ce que l'Ukraine dit, ben pour qu'on puisse faire ça, on a besoin d'armes de longue portée, on a besoin d'artillerie, on a besoin de missiles, etc. Et le Canada dit, on travaille là-dessus, mais on va vous donner de l'argent éventuellement. Et ça prend beaucoup de temps avant qu'on prenne des décisions. Et regardez la décision qui est annoncée là, hier. Donc, on va envoyer 6 caméras sur des drones. C'est super, des caméras, ça permet aux drones là, de trouver les cibles et pouvoir les abattre. Mais 6, on peut convenir, c'est pas un gros chiffre. Là,
quand non,
on
pas vraiment.
Une armée de 200 000 troupes. Donc, c'est toujours ça. Donc, les intentions sont bonnes, mais on dirait que les moyens sont pas au rendez-vous et que ça prend beaucoup de temps d'avoir des clarifications aussi de la Défense nationale pour qu'est-ce qu'on offre et quand ça va venir.
Ouais, un autre point important à retenir du sommet de l'OTAN, là, c'était déjà là, dans les cartons, mais là, ça a été enclenché officiellement hier, le processus d'adhésion de la Suède et de la Finlande en ce moment à l'OTAN, qui pourrait donc se joindre aux 30 membres actifs actuels de l'OTAN. À quel point c'est une annonce, une décision qui pourrait là, faire trembler les Russes et les rendre nerveux?
Bien, c'est très important. Écoutez, la Suède, ça faisait 200 ans qu'elle était neutre, qu'elle n'était pas dans une alliance.
1814, oui.
Changement. Exactement. Et la Finlande aussi, depuis plusieurs décennies. Et la Finlande partage une très longue frontière terrestre avec la Russie. Donc, la Russie va devoir prendre ça en considération là, dans ses plans de défense, même si la Finlande n'a aucune, évidemment, intention d'attaquer la Russie. Et surtout, c'est que faut se souvenir là, que des demandes de Vladimir Poutine avant l'invasion. Il disait on va envahir, à moins que vous retirez les troupes de l'OTAN des pays proches de la Russie, donc les pays baltes, et aussi qu'il y a moins de présence de l'OTAN aux frontières de la Russie. Mais ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est que Vladimir Poutine, c'est un échec sur toute la ligne. Non seulement il y a de plus en plus de troupes, on le disait tout à l'heure, le Canada et d'autres pays là, qui vont envoyer plus de troupes dans les pays d'Europe de l'Est,
ouais.
Mais en plus de ça, le pays qui partage une frontière avec lui va joindre l'OTAN. Donc l'OTAN se renforce contre la Russie, ce qui est absolument l'opposé là, de la volonté de Vladimir Poutine. Donc pour ça, c'est un échec. Et en plus, on peut ajouter les échecs militaires sur le terrain en Ukraine que les Russes subissent présentement. Juste hier, justement, ils ont perdu l'île de Serpent, là, qu'on se souvient au début de la guerre qui avait été notoire là, dans cette prise-là. Donc, vraiment, ça regarde pas bien pour l'avenir de la Russie vis-à-vis de sa sécurité nationale.
En terminant, M. Massy, dans cette adhésion-là, il y avait un membre de l'OTAN qui n'était pas certain, qui avait des conditions pour accepter l'adhésion, parce qu'il faut être unanime dans tout ça, là, d'accepter l'adhésion de la Suède et de la Finlande. C'est la Turquie qui avait deux concessions qu'il voulait avoir, l'extradition de 33 personnes que la Turquie considérait comme des terroristes et la fin des restrictions des exportations d'armes imposées par la Finlande et la Suède depuis 2019. Ils ont eu leurs concessions, là, somme toute. Est-ce que la Turquie, selon vous, sort grande gagnante de ce sommet de l'OTAN?
Non, je crois pas. Parce que, dans le fond, elle s'est attirée les foudres de 29 autres pays membres de l'OTAN qui n'ont vraiment pas trouvé drôle ce marchandage-là d'utiliser la volonté de deux pays de joindre l'alliance pour se défendre contre la Russie pour faire des concessions pour des choses qu'on estime mineures, c'est-à-dire qui sont pas liées, disons, au dossier. Et pour ça, il a perdu beaucoup de capital politique. Et au final, ce que la Suède et la Finlande ont accepté de faire, c'est que, somme toute, très, très peu par rapport aux demandes initiales de la Turquie. Et je pense qu'à long terme, la Turquie va être de plus en plus isolée au sein de cette alliance-là parce qu'elle joue toujours ce rôle de trouble-fête qui pose problème avec ses alliés.
Bon, bien, en espérant justement que ça renforce l'alliance, même si c'est 29 autres pays membres, bientôt peut-être 31, 32, donc avec tous les membres, la Suède et la Finlande, une adhésion là, qui pourrait prendre environ un an, là, si je ne m'abuse, à faire effet. Donc, le processus d'adhésion est bien enclenché et le sommet de l'OTAN donc a eu les effets escomptés. Monsieur Massy, professeur au département de sciences politiques de l'UQAM, co-directeur du réseau d'analyse stratégique, merci beaucoup et à la prochaine.
Je vous en prie, au revoir.
Alors, c'est ce qui conclut déjà notre émission après une heure. Je rappelle, on fait relâche demain ici à Cube Radio. Il va y avoir des balados en rafale toute la journée, dont le mien, hein, Ce n'est qu'une théorie, qui parle des théories du complot que je décortique avec différents experts. J'en profite pour vous le mentionner. Si vous aimez tout ce qui est conspiration, complot, occulte un peu, ça vaut la peine d'aller écouter, du moins, je l'espère. On se quitte aujourd'hui également. Il n'est pas là en ce moment en régie, j'en ai parlé un peu hier. Achille Moinet, Caroline Duplessis, qui sont deux collaborateurs inestimables qu'on a ici à Cube Radio, qu'on apprécie beaucoup et qui malheureusement là, devront nous quitter. Je les salue, je les embrasse et je les apprécie beaucoup. Et pour les laisser, là, tout à l'heure, j'ai demandé à Jean-François, qui est en régie, Jean-François Roy, je voulais qu'il me surprenne avec une musique aujourd'hui. C'était ma demande fantaisiste du jour. Je voulais être surpris et il m'a trouvé une musique qui en ce moment fait le tour des palmarès, justement, chanson de 1985, hein, qui revient entre les morts, c'est Running Up That Hill de Kate Bush, qui est redevenu populaire grâce à la série Stranger Things. Ça aussi, c'est bon. Allez l'écouter. Je vous laisse. Bonne fête du déménagement. On se retrouve lundi. Cube Radio.